Merci Joe. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'aimerais commencer, on commence ensemble avec une question. Et cette question, elle n'est pas très compliquée, elle est même très simple. C'est pourquoi ? C'est une bonne question ça. Pourquoi ? Pourquoi, c'est une question, plus sérieusement, qui est importante dans notre vie. Quand on fait quelque chose, quand on fait un choix, on veut toujours savoir pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci ? Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? Les enfants aussi aiment bien poser cette question. Papa, papa, pourquoi le ciel est bleu ? Ou les ados demandent pourquoi est-ce que je dois ranger ma chambre ? Une question préférée. Mais pourquoi ? C'est une question qui est importante pour nous tous. Et c'est une question qui est importante parce que c'est la question qui vise à chercher le sens, qui vise à chercher la raison d'être de quelque chose. Et c'est une question qui est aussi profondément ancrée en chacun de nous. On ne peut pas s'empêcher de la poser et on cherche toujours à savoir la raison d'être et le sens des choses qui nous entourent. Pourquoi est-ce que je fais mon travail ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces études ? Pourquoi je fais certains choix ? Pourquoi est-ce que j'entretiens certaines relations dans ma vie ? Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi vous, vous êtes ici ce matin ? Toutes ces questions qu'on peut se poser avec cette question « Pourquoi ?» Des bonnes questions. Et parfois, cette question-là, on l'applique aussi plus largement à notre vie. On se demande plus largement quel est le sens de ma vie ? Pourquoi ma vie ? Quelle est la raison d'être de toute ma vie ? Mark Twain, vous connaissez peut-être Mark Twain, l'écrivain américain, l'auteur des aventures de Tom Sawyer, a dit cette phrase, il a dit « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et celui où vous avez compris pourquoi. » Donc on a tous cette grande quête dans nos vies. Questionner le sens de notre existence, trouver la raison d'être de notre vie, trouver notre sens, le grand pourquoi de notre vie. Alors pour le moment, je vous laisse avec cette question et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais gardez-la dans un coin de votre tête. Pourquoi ? Donc cette semaine, on a fêté, Joe nous l'a rappelé, les 500 ans de la Réforme, c'était mardi. Et à cette occasion, on a entrepris, vous le savez bien maintenant, une série de 5 prédications sur les 5 solas. Et aujourd'hui, donc, c'est le dernier volet de cette série de prédications. Alors vous le savez aussi bien maintenant, ces 5 solas, ces 5 petites phrases, sont une façon de résumer le cœur de l'enseignement de la Réforme. Et ils sont aussi, par la même occasion, une façon assez élégante de résumer le cœur du message de l'Évangile. Et donc, vous l'aurez compris, ces 5 phrases, ces 5 solas, commencent toutes par le mot en latin solas, qui veut dire seul. Donc, les voici. Et c'est un petit résumé de ce qu'on a vu jusque-là au cours des 4 semaines précédentes. Jusque-là, on a vu sola scriptura, la Bible seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, sola Christus, solus Christus, pardon, Christ seul. Et le thème d'aujourd'hui, soli deo gloria, la gloire de Dieu seul. Mais ces 5 phrases, ces 5 solas, si on les prend toutes seules comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour qu'elles aient du sens, on doit les précéder d'une phrase. Et cette phrase qu'on doit mettre devant chacune d'entre elles, c'est « nous sommes sauvés » ou « nous sommes justifiés ». Si on ne met pas ça devant, ça n'a pas de sens. Et donc si on remet les 5 solas dans le bon contexte, voici ce que ça donne. « Nous sommes sauvés » ou « nous sommes justifiés » devant Dieu par la grâce seule, sur la base du seul sacrifice de Christ, au moyen de la foi seule pour la gloire de Dieu seul, est telle qu'enseignée par la Bible comme seule autorité en la matière. Ça, c'est les 5 solas qu'on a vus ensemble jusque-là, et donc aujourd'hui, on traite le dernier sujet, la gloire de Dieu seul. Les 4 solas qu'on a vus sur les 4 dernières semaines jusque-là, ils répondaient toutes à la même question. Ils répondaient à la question, comment est-ce que je peux être sauvé ? Par quel moyen est-ce que je peux être sauvé ? Mais le dernier solas qu'on va voir aujourd'hui, soli deo gloria, pour la gloire de Dieu seul, celui-ci, il est légèrement différent. Pourquoi ? Parce qu'il répond à une question différente. Il répond à la question « Pourquoi ?» La fameuse question, j'espère que vous l'avez gardée en tête depuis tout à l'heure. Et ça, c'est la question clé pour nous ce matin. Pourquoi est-ce que je suis sauvé ou pourquoi est-ce que je peux être sauvé ? Et la raison, et la réponse à cette question-là, vous l'avez déjà dans le titre, il n'y a pas beaucoup de suspense ce matin. Pourquoi est-ce que je suis sauvé ? C'est pour la gloire de Dieu seul. Mais on ne va pas s'arrêter là et on va essayer de creuser un peu plus. On ne va pas se satisfaire simplement de cette courte réponse. Et ce qu'on va faire ce matin ensemble, c'est qu'on va piocher dans l'ensemble de différents endroits de la Bible, justement pour montrer que la gloire de Dieu est un thème central, un thème qu'on pourrait dire qui se retrouve du début à la fin de la Bible en passant par le milieu. Déjà ce matin, on a eu plusieurs versets qui ont été lus par Joe, par différentes personnes ce matin, et on a vu qu'à différents endroits de la Bible, on retrouve chaque fois ce même thème de la gloire de Dieu. Et donc pour commencer, on va avoir besoin de définir peut-être un petit peu les choses. La gloire, qu'est-ce que c'est la gloire ? La gloire, c'est un de ces mots qu'on ne rencontre pas très souvent en dehors du contexte de la Bible. Je sais pas vous, mais moi je l'utilise pas souvent dans le contexte de ma vie quotidienne. Peut-être que vous pourrez le tenter en rentrant ce midi chez vous, dire « Chérie, merci pour ce glorieux repas que tu m'as fait ce midi ». Mais globalement, ça colle pas. C'est un mot qui est réservé à l'usage de la Bible et à l'usage de Dieu. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est d'abord regarder ce que la Bible en dit, et on va se poser pour ça deux questions. Première question, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? Deuxième question, pourquoi la gloire de Dieu est la raison d'être de toute chose ? Et on va voir que la Bible, dans son ensemble, a des choses très intéressantes à nous dire là-dessus. Alors, première question, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu ? La semaine dernière, si votre mémoire est bonne, Jean-Marc nous a rappelé l'importance d'un des attributs de Dieu. Et si vous vous rappelez bien, cet attribut, c'était la sainteté. Et c'était un attribut important parce que c'est le seul attribut qui est répété par trois fois. Et cette répétition par trois fois dans le texte hébreu, dans l'original, était un moyen de communiquer un superlatif, était un moyen de dire que cet attribut-là de la sainteté est le degré le plus haut de cet attribut, le superlatif. Et voici un de ces deux versets dans la Bible où on retrouve ce superlatif avec la sainteté de Dieu. C'est un verset dans Ésaïe, chapitre 6, verset 3, qui nous dit « Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre ». Ici, le prophète Ésaïe nous décrit une vision que Dieu lui-même lui a donnée, une vision du trône de Dieu, au-dessus duquel Ésaïe a vu des anges qui criaient et qui répétaient cette phrase. Et le mot « saint », Jean-Marc nous l'avait aussi rappelé la semaine dernière, le mot « saint » veut dire que quelque chose est séparé de ce qui est commun, quelque chose qui est mis à part de ce qui est commun, c'est quelque chose de saint. Mais ici, on a le superlatif, « saint, saint, saint », trois fois « saint ». Dit autrement, Dieu est infiniment séparé de ce qui est commun. Dieu est infiniment différent de toute chose que l'on connaît, de toute chose de sa création. Donc Dieu est unique et parfait, et donc infiniment différent et infiniment précieux. Et du début à la fin de la Bible, on a cette idée qui est développée. La valeur suprême de Dieu, ce qui le rend unique, ce qui le rend différent de nous, ce qui le rend incomparable, sa sainteté, c'est ça qui va briller et qui va rayonner autour de lui et remplir la terre. C'est ce que nous dit ce verset. Et ce rayonnement, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, sa sainteté rayonne et remplit la terre. Pour nous aider à comprendre, on peut penser aussi à l'image d'une pierre précieuse. Joe a lu un verset aussi tout à l'heure qui avait cette image-là. C'est comme un diamant unique au monde qui serait à la fois plus grand, plus beau, plus rare et qui serait infiniment plus précieux que toutes les autres pierres du monde. Et ce diamant, grâce à ses attributs que je viens de décrire, ce diamant aurait un éclat, une brillance qui rayonne autour de lui. La gloire de Dieu, c'est ça, c'est cet éclat, cette brillance qui rayonne autour de Dieu par sa sainteté qui le rend unique. Alors la Bible nous parle aussi de la gloire de sa force, la gloire de sa grâce, la gloire de ses actions, la gloire de sa présence. On retrouve la gloire de Dieu à plein d'endroits différents dans la Bible. Et là encore, l'image de la prière précieuse, elle peut nous aider. Chacune des facettes de Dieu, chacune de ses caractéristiques, chacun de ses attributs est unique et saint et donc contribue à cet éclat, à cette brillance et à ce rayonnement de la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu ? C'est simplement la manifestation visible, le rayonnement de sa valeur suprême, la gloire de Dieu. C'était notre première question. Deuxième question, pourquoi la gloire de Dieu est la raison d'être de toute chose ? Alors ici, l'analogie qu'on avait jusque-là avec la pierre précieuse, elle doit s'arrêter. Une pierre précieuse, aussi belle qu'elle puisse être, c'est quelque chose qui est inerte et qui est passif. La pierre, elle est ce qu'elle est, elle n'y peut rien. Mais Dieu est tout sauf passif dans la démonstration de sa gloire. La Bible nous décrit un Dieu qui est à l'œuvre et qui a une passion ardente pour sa gloire. La Bible nous décrit un Dieu qui cherche constamment à activement manifester sa gloire dans tout ce qu'il fait, au point même d'en faire la raison d'être de toute sa création. Et ça commence dès le début de la création. Regardez ce premier verset dans le psaume 19. Le psalmiste nous dit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » J'ai toujours été fasciné par l'espace, par la grandeur des étoiles, des galaxies, des planètes. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Et ce qui me fascine le plus, c'est peut-être cette idée que la majorité de ces galaxies, la majorité de ces étoiles est tellement lointaine, est tellement hors de portée de l'humain qu'on n'aura probablement jamais l'occasion d'aller les voir et d'aller les visiter. Pourtant, elles sont toutes là, elles ont toutes été créées, tellement loin de nous, on ne pourra jamais aller les voir, mais elles existent. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont là ? C'est la réponse de ce verset. Elles sont là pour témoigner de la gloire de Dieu. Mais la manifestation de la gloire de Dieu ne s'arrête pas avec l'immensité de sa création. Ça continue aussi avec l'histoire humaine. Et là, du coup, c'est beaucoup plus proche de nous. Regardez ce deuxième verset, cette fois c'est Ésaïe qui nous dit, au chapitre 43 de son livre, et c'est Dieu qui parle ici, Ésaïe nous dit « Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné et que j'ai fait. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire. » Chaque peuple, chaque homme, chaque femme, chacun de nous ici ce matin a été créé pour la gloire de Dieu. C'est notre mission et c'est notre but. La Bible nous enseigne aussi que nous sommes créés à l'image de Dieu, avec cet objectif-là, l'objectif d'être une image du Dieu invisible, comme un miroir qui doit refléter son Créateur, la personne de Dieu. Et donc c'est par cette ressemblance qu'on peut lui rendre gloire. On dit souvent que l'imitation est la plus sincère des flatteries. Et c'est un petit peu pour ça que nous, on a été créés avec cette image, à l'image de Dieu. Et donc notre but, notre raison d'être, c'était de porter son nom et de renvoyer vers lui, par notre ressemblance, la gloire qui lui est due. Donc pour répondre à notre question, pourquoi la gloire de Dieu est la raison d'être de toute chose? Tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'était son choix, c'était son plan de toute éternité, c'était son choix en tant que créateur souverain sur sa création. Son objectif ultime, depuis le début de sa création, encore aujourd'hui et encore demain, c'est de faire de tout ce qui existe, de tout ce que Dieu fait, l'objet de sa gloire. Et chacun de nous ce matin, on s'inscrit, je l'ai dit, dans cette création et dans cette gloire, dans cette grande histoire de l'univers à la gloire de Dieu. Et donc chacun de nous, personnellement ce matin, on est censé vivre des vies à la gloire de Dieu. C'est ce verset d'Ésaïe qui nous le dit. Mais voilà le problème. Le problème, c'est qu'on a tout gâché. On avait une seule mission, on avait un seul objectif et on a trouvé moyen de gâcher cet objectif. On n'a pas réussi à l'atteindre. Comment est-ce qu'on a fait pour gâcher cette mission que Dieu nous a donnée ? Eh bien, on s'est posé cette question. Pourquoi ? Vous vous rappelez la petite question que vous avez mise dans votre tête, normalement ? Pourquoi je suis là ? Quel est le sens ? Quelle est la raison de ma vie ? Alors, le problème, ce n'est pas tant qu'on s'est posé la question. Il n'y avait pas de mal à se poser la question. Le problème, c'est là où on allait chercher la réponse à cette question. Ce qui aurait été logique pour nous, ça aurait été d'aller chercher la réponse auprès de notre Créateur, auprès de celui qui nous a créés, de celui qui nous a façonnés, de celui qui était censé savoir le mieux pourquoi on a été créé. Le vrai problème, c'est que cette question, pour y répondre, on a improvisé, on a inventé nos propres réponses. On est allé chercher le propre sens à notre vie. Et plutôt que de chercher la gloire de Dieu, on a essayé de chercher notre propre gloire. On a essayé de rayonner et de briller tout seul sans Dieu. Alors voici ce que l'apôtre Paul a à nous dire à ce sujet, au sujet de ce problème qu'on a. C'est dans Romains, au chapitre 1 et au verset 22, Paul nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Paul, là, nous parle de la gloire de Dieu. Mais il continue et il dit « Il », et là il parle des hommes, il parle de moi, il parle de chacun de nous ici ce matin, « Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. » Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et il continue, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Paul dit ici qu'on a remplacé la gloire de Dieu par des images et par des idoles. Des objets ou des raisonnements, des désirs, des passions fabriqués de toutes pièces par l'homme et conçus dans le but de glorifier l'homme à la place de Dieu. Paul nous parle de choses qui ont pris la place dans notre vie et qui ont volé à Dieu la gloire qui lui était due. Alors on est en 2017 et en 2017, les images et les sculptures d'oiseaux et de reptiles, c'est plus trop notre truc. Par contre, on a trouvé mieux et on a inventé plein de choses qui ont remplacé ça. On s'est dit qu'une bonne raison de vivre, c'est d'être heureux. On s'est dit une bonne raison de vivre, c'est pour être connu et reconnu. Ou peut-être que simplement, c'est d'être connecté à une communauté, connecté à une famille. C'est peut-être votre raison d'être ici ce matin, dans cette église, d'être connecté à une communauté. On s'est dit une bonne raison de vivre, c'est d'avoir un corps et un esprit en bonne santé. C'est peut-être aussi une vie consacrée à l'apprentissage et aux connaissances. Ou une vie qui vise à atteindre une certaine stabilité et une sécurité financière. Ou alors peut-être une vie où on doit donner plus que ce qu'on va recevoir. Une vie à prendre soin des autres. Ou peut-être simplement une vie qu'on essaie de vivre en étant pieux et moralement juste. Chacun de nous choisit et invente ses raisons et on pioche dans toutes ces idées pour construire le sens de notre vie et on place ses raisons au centre de notre vie. Vous connaissez peut-être Alain Audercé, c'est un auteur de bande dessinée chrétien. Voici sa façon de voir ce problème dont on parle. Chacun choisit son chemin, sa route personnelle. L'important, c'est d'être sincère. L'important, c'est de tolérer le chemin choisi par les autres et de prendre la route que nous, on a choisie pour notre vie. Le petit personnage qu'on voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, il est très content, ce personnage. Il est très content d'avoir choisi sa route. Il ne sait pas encore qu'il court à sa perte, mais en attendant, il est très heureux d'avoir choisi ce chemin dans sa vie. Et c'est une partie peut-être du piège de ça. Beaucoup de ces raisons de vivre, beaucoup de ces sens qu'on donne à notre vie ne sont pas fondamentalement mauvaises en soi. Elles peuvent nous rendre heureux, du moins pour un temps. Mais par contre, il y a un problème. Et le souci, c'est qu'aucune d'entre elles ne peut constituer le vrai sens de notre vie, le sens ultime, le sens avec un grand S. Toutes ces choses, d'abord, sont temporaires et conditionnelles. Elles dépendent des opportunités qui se présentent à nous. Elles peuvent être remises en question, balayées du jour au lendemain par des événements. Toutes passeront avec le temps, ça c'est une certitude. Paul nous dit « on a remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des choses corruptibles ». Mais par-dessus tout, aucune de ces choses ne peut réellement nous satisfaire pleinement. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a été créé pour autre chose. Et la Bible appelle ce problème le péché. C'est le nom que la Bible met sur ce problème. Et dans le texte original, on retrouve cette traduction du mot péché à différents endroits dans nos Bibles. Et le texte original en hébreu, le mot que nous on traduit par péché veut dire et contient cette idée de rater la cible, d'échouer à atteindre le but qui était prévu, de prendre le mauvais chemin. C'est ça que veut dire le péché. En d'autres termes, on a raté ce pour quoi on a été créé. En choisissant un autre chemin que celui pour lequel on a été créé, on rate la vocation de notre vie. On a été créé pour glorifier Dieu et on a rempli nos vies de tout plein d'autres choses qu'on a choisies par nos propres moyens. Et donc, par nos choix de vie sans Dieu, on crée là un problème, on crée une tension, quelque chose qui ne peut pas durer ou perdurer dans le temps. Alors rappelez-vous, Dieu a une passion ardente pour sa gloire. Il défend jalousement et activement sa gloire. Ce n'est pas une pierre précieuse qui se contente de rester là et de briller sans rien faire. Et donc face à notre refus, face à la cible que nous, on a ratée, qu'est-ce que Dieu a fait ? Eh bien, il a agi pour rectifier le tir. Il a fait en sorte que chacun de nous, on puisse avoir l'occasion de rectifier le tir et de toucher cette cible qu'on a loupée. Et pour faire ça, Dieu a entrepris la plus grosse opération de sauvetage de l'histoire de l'humanité. Et du coup, là, on arrive à la question clé de ce matin, celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on est sauvé ? Vous connaissez déjà la réponse. Les questions sont faciles ce matin, c'est toujours la même réponse qui revient. Pourquoi est-ce qu'on est sauvé ? La réponse, c'est pour la gloire de Dieu seul. Oui, Dieu a une passion pour sa gloire au travers de sa création, on l'a dit. Oui, Dieu a aussi une passion pour sa gloire au travers de l'histoire de toute l'humanité. Mais, et c'est un grand mais d'une manière beaucoup plus importante pour chacun de nous ici ce matin, Dieu a une passion pour sa gloire au travers de notre salut. Le cœur de l'Évangile, le cœur du message de l'Évangile, le cœur des cinq solas qui résument ce message de l'Évangile, ce n'est pas le salut de l'homme. Le salut de l'homme résulte d'un objectif supérieur qui est celui de la gloire de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on est sauvé ? On est sauvé pour la gloire de Dieu, mais cette réponse, on doit la décomposer en deux sous-réponses, parce que notre salut glorifie Dieu de deux façons différentes. Les voici. Premièrement, notre salut glorifie Dieu parce que Dieu seul nous offre le salut. Deuxièmement, notre salut glorifie Dieu parce qu'il produit des vies qui lui sont consacrées, des vies qui lui rendent gloire. Alors, premier point, Dieu est glorifié par le salut offert par lui seul. Et là, on va revenir aux cinq solas. Regardez ces cinq solas. Nous sommes sauvés ou justifiés par la grâce seule de Dieu, par la foi seule en Christ seul qui est le Fils de Dieu, sur la base de l'autorité de la Bible qui est la parole de Dieu seule. Quand on se pose la question « comment est-ce que je peux être sauvé ?» et que la réponse contient quatre fois quelque chose de Dieu seul, on commence à comprendre quel était un des thèmes que les réformateurs avaient vraiment à cœur de nous communiquer. Comment est-ce qu'on est sauvé ? On est sauvé seulement grâce à Dieu. Notre salut est seulement possible par l'action de Dieu. Il n'y a pas quelque part un sixième solas qu'on vous aurait caché jusque-là et qui dit « ah oui, on est aussi sauvé peut-être un peu grâce à un bel effort de notre part ». Ce solas-là, il n'existe pas. Rien, absolument rien, vient de notre part. Aucun mérite pour nous. Le salut vient de Dieu seul, tout le mérite lui revient pour sa gloire seule. On a refusé de glorifier Dieu dans nos vies, mais Dieu a réussi à retourner la situation en sa faveur et se glorifier d'autant plus parce que c'est lui seul qui nous offre la solution à ce problème. Nos péchés, nos fautes à l'encontre de Dieu, qui sont le résultat d'une vie entière qu'on a menée pour notre propre gloire, ces fautes-là sont pardonnées et effacées sur la base de la seule initiative de Dieu. L'apôtre Paul appelle cette solution, cet évangile, il appelle ça le glorieux évangile du Dieu bienheureux. Tout ce que Dieu fait est glorieux, même lorsqu'il répare nos vies qui ont été ratées et qui ont loupé sa gloire, même lorsqu'il fait ça, Dieu arrive à se glorifier. Mais ça ne s'arrête pas là, et ça ne peut pas s'arrêter simplement à ça. Et ça, ça nous amène à notre deuxième point. Dieu est glorifié par des vies qui lui rendent gloire. Ça ne s'arrête pas là, parce que notre salut n'est pas une fin en soi. Et ça paraît logique, on est sauvé pour quelque chose. Quand on sauve quelqu'un, ce n'est pas pour le laisser retomber dans sa condition précédente, sinon ça ne sert à rien. On sauve quelqu'un en vue de quelque chose de meilleur. Alors pourquoi est-ce qu'on est sauvé? En vue de quoi est-ce qu'on est sauvé? On est sauvé en vue d'une vie vécue à la gloire de Dieu. En vue d'une vie qui retrouve son sens et son but initial. La seule raison d'être d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors à quoi ressemble une vie vécue à la gloire de Dieu? Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Quelqu'un qui nous explique ça très bien, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu une partie de sa vie sans connaître le glorieux évangile de Dieu qu'il appellera plus tard, mais il a vécu une partie de sa vie sans le connaître, sans savoir qu'il avait besoin de reconnaître Christ comme son Sauveur et son Seigneur pour être justifié devant Dieu. Il n'avait pas encore compris ces cinq solas qu'on a résumés aussi ce matin. Et donc, avant ça, avant de découvrir Christ, Paul était un homme, et il en parle, Paul était un homme qui était très déterminé dans sa vie. Il avait trouvé un vrai sens à sa vie et il avait, par cette détermination, par cet engagement dans sa vie, il avait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une réussite sociale brillante. Si Paul était un de nos contemporains, ce serait le type de personne, on le verrait et on dirait « Ah ben lui, il a bien réussi sa vie, il a fait tous les bons choix, il a trouvé le bon chemin pour sa vie, il sait où il va, bravo à lui. » Mais Paul, sa vie, elle ne s'est pas finie comme ça. Paul a eu sa vie bouleversée du jour au lendemain quand il a découvert qu'en fait, il avait raté sa vie depuis le tout début. Quand il a découvert qu'il a raté le sens même de sa vie. Et voilà ce que Paul dit à son sujet. On est dans Philippiens, au chapitre 3, le verset 4. Paul nous dit « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. » Paul nous parle dans ce verset de sa condition et dans les versets suivants, les versets 5 et 6 de ce chapitre de Philippiens, il va détailler ce qu'il entend par là, ce qu'il entend par sa condition. Et pour lui, sa condition, c'est tout ce qu'il a réussi à accomplir dans sa vie par ses propres efforts. Ses qualifications, son statut social, sa vie morale juste et droite, tout ce qui nous ferait dire « Ah ben bravo Paul, t'as bien réussi ta vie ». Il résume tout ça et il dit « Voilà ce qui donnait du sens à ma vie, c'est ma condition ». Mais Paul poursuit. Et il poursuit. Il dit « Je pourrais mettre ma confiance dans ma condition ». Et au verset 7 de ce chapitre 3 de Philippiens, il nous dit la chose suivante. « Je pourrais mettre ma confiance dans ma condition, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Paul nous dit ici, c'est très fort ce que Paul nous dit, il nous dit, si on additionne tous les gains, toutes les meilleures raisons de vivre, et Paul il les avait toutes ces meilleures raisons de vivre, si on les additionne toutes, et qu'on les met dans une balance, et qu'en face, de l'autre côté de cette balance, on met Christ, Paul nous dit, Christ pèse plus lourd, Christ a plus de valeur dans cette balance. Paul nous dit que tous les gains de sa vie sont comme des ordures afin de gagner Christ. Il nous dit qu'une vie a une vie avec Christ comme Sauveur et Seigneur à la gloire de Dieu aura toujours plus de valeur que n'importe quel autre objectif de vie qu'on pourrait trouver pour nous-mêmes. Dans un autre verset, et toujours dans sa lettre aux Philippiens, Paul, toujours en parlant de lui-même, nous dira la chose suivante. Il ira plus loin dans cette même idée. Il nous dira « Christ est ma vie et mourir représente un gain. » Christ est ma vie et mourir représente un gain. C'est encore plus fort ce qu'il nous dit là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Paul nous dit que si on fait la somme de tout ce qu'on pourrait perdre à notre mort, qu'est-ce qu'on va perdre à notre mort? Notre famille, notre travail, nos amis, nos biens. Si on fait la somme de toutes ces pertes, avec Christ, on a toujours un gain net. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Et Paul continue aussi dans ce même thème, c'est un thème qu'il a à cœur, et dans sa lettre aux Corinthiens, il nous dit ce verset qu'on connaît bien. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cet exemple de Paul pour notre vie ? Premièrement, Dieu est glorifié dans nos vies lorsque tout ce qui a du sens, lorsque tout ce qui a de la valeur dans nos vies devient avant tout un moyen de rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, Dieu est glorifié dans nos vies quand il est plus précieux que tout ce que la vie peut nous offrir et quand il est plus précieux que tout ce que la mort peut nous enlever. Et donc si on devait poser cette question à Paul, est-ce qu'on a intérêt à vivre une vie qui glorifie Dieu ? Paul nous répondrait oui, il nous répondrait doublement oui. Non seulement on doit le faire parce que, ultimement, on a été créé exactement pour faire ça, mais on doit aussi le faire parce que c'est dans notre propre intérêt, parce que c'est dans cette vie-là qu'on pourra avoir la plus grande des joies. Quand Dieu a planifié notre salut, il a fait de façon à être glorifié, on l'a déjà dit, mais il a aussi fait de façon à ce que nous, on ne trouve pas ça ennuyeux et contraignant. Il a fait pour qu'on trouve notre pleine satisfaction en lui. Et c'est ce que nous dit Paul, « Christ est ma vie et mourir est un gain ». Dans tous les cas de figure, Christ est un gain, Christ est une satisfaction, Christ est une joie. Paul nous dit que c'est un bien suprême. Jonathan Edwards, qui était un pasteur, un théologien américain du XVIIIe siècle, a dit la chose suivante au sujet de la gloire de Dieu. Il nous dit « Dieu est glorifié pas seulement par la démonstration de sa gloire, mais aussi par le fait qu'on se réjouit dans sa gloire. Quand ceux qui voient la gloire de Dieu y prennent un grand plaisir, Dieu est davantage glorifié. Il n'y a donc aucune contradiction entre notre bonheur et un Dieu qui recherche par-dessus tout sa propre gloire. C'est un seul et même objectif. Notre bonheur et la gloire de Dieu, ça revient à la même chose. Et c'est ce bonheur, c'est cette joie qui change tout pour nous. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand on a compris ça, on n'a plus besoin de trouver ou d'inventer notre propre raison d'être. On n'a plus besoin de se poser cette question « Pourquoi ? Quel est le sens de ma vie ?» et d'aller inventer notre propre sens. Pourquoi ? Parce qu'on est libre de joyeusement refuser les richesses de ce monde pour avoir droit à l'infinie richesse de vivre avec Jésus-Christ. Une autre raison, on est libre de joyeusement refuser la gloire de ce monde pour avoir la joie de partager la gloire du Dieu Très-Haut. On est libre de refuser les garanties et les sécurités offertes par ce monde pour avoir la garantie d'une vie éternelle auprès de notre Créateur. Et on est libre de refuser les plaisirs temporaires et insatisfaisants de ce monde pour recevoir la plénitude de la vie, de la seule vie qui vaille la peine d'être vécue, la vie vécue pour la gloire de Dieu. Et du coup, on a notre réponse complète. Pourquoi sommes-nous sauvés ? Pour la gloire de Dieu. Parce que seul Dieu nous offre le salut. Parce que seul Dieu se glorifie en nous offrant la solution. Et parce que son salut produit des vies qui rendent chacun de nous joyeusement, qui nous donnent envie de joyeusement le glorifier dans nos vies. En introduction, je vous ai demandé pourquoi vous êtes ici ce matin. Pourquoi vous êtes dans cette église plutôt que d'être resté au chaud chez vous, au fond de votre lit ? Et c'est encore une question facile parce que c'est toujours la même réponse. Vous êtes ici pour la gloire de Dieu. Vous êtes censé être ici ce matin uniquement pour la gloire de Dieu. Aucune autre raison. Alors peut-être que ce matin, vous avez découvert que cette réponse, c'était celle-ci, pour la gloire de Dieu. Peut-être que vous avez découvert ça pour la toute première fois ce matin. Et peut-être que maintenant, vous devez accepter que votre vie a raté sa cible jusque-là. Dans ce cas, je vous invite à vous tourner vers la solution qui est offerte par Dieu, le glorieux évangile du Dieu bienheureux dont nous parle Paul. Peut-être que vous connaissiez déjà cette réponse, mais peut-être que ce matin, vous avez redécouvert qu'une vie à la gloire de Dieu est la meilleure des vies qui vaut la peine d'être vécue. Dans tous les cas, lorsque Dieu nous sauve pour sa gloire, il nous sauve pour sa gloire seule, par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Christ seul, et à ce moment-là, il ouvre pour nous un nouveau chemin de vie. Où est-ce que nous mène ce nouveau chemin de vie ? Il nous mène ici. Et je vous laisse ce matin avec ce verset, et ce sera notre verset de conclusion. « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. » Que le Seigneur bénisse sa parole, et je vous laisse ce verset qui puisse aussi nous accompagner et nous rappeler combien il est bon pour nous de chercher avant tout la gloire de Dieu dans nos vies. Amen.